Hola tutti, nous sommes sur Radio Galère 88.4 pour l'émission Une heure en Palestine. C'est l'été, nous sommes le mercredi 6 août, mais nous avons enregistré et monté cette émission au studio de Radio Galère avec notre super technicien Sidi et également avec Marie. Marie, la réalisatrice du très bon podcast Yalla, je t'emmène en Palestine, qui est disponible sur toutes les plateformes et qui revient. Elle est revenue à Marseille il y a une semaine d'un nouveau séjour de 2 mois en Palestine dont on nous parlera. On aura aussi au téléphone un autre Philippe. Alors celui-ci, il s'occupe du collectif La Ciotat Palestine. Il fait un travail remarquable, on l'aura au téléphone. Et donc, nous sommes le 28 juillet, on enregistre. Et nous avons eu la chance, lors de l'émission précédente, qui était donc le 23, d'avoir une jeune femme, une autre jeune femme. Alors là, on a Marie en studio. Cette fois, c'était Claire Bastier, qui aurait dû être à Jérusalem, la ville dont elle est devenue folle amoureuse, mais elle n'avait pas pu y aller à cause des suppressions de vols suite aux attaques de sites stratégiques de l'Iran par les armées d'Israël et des États-Unis. Et du coup, nous avions eu la chance de la voir à bord du bateau Golan au sein de Marie-de-la-Mer. Et donc, elle nous parle de ce spectacle magnifique qu'elle a créé qui s'appelle « Jérusalem dans la peau ». Et donc, puisque nous étions à Sainte-Marie-de-la-Mer, j'ai eu la chance d'aller à Sète. À Sète, où a lieu, comme chaque année en fin de mois de juillet, le très très beau festival de poésie Voix vive de Méditerranée. Et j'ai pu enregistrer des membres éminents de la famille dans Sète. Voilà. En tout cas, je suis ici parce que je suis membre de l'association Palestine 13. Palestine 13 qui fait un travail remarquable, en particulier avec son site internet assopalestine13.org, dans lequel on peut trouver très régulièrement des informations sourcées, des informations locales et internationales, et puis aussi un agenda qui répertorie tous les événements, et ils sont nombreux, qui ont lieu concernant la Palestine dans la région. Alors évidemment, l'agenda du mois d'août, il est un peu plus clairsemé, mais ce qui est sûr, c'est que comme tous les samedis à 15h à Aix-en-Provence, au niveau de la place de la Rotonde, le dimanche matin à La Ciotat à 10h au niveau de l'église du Port-Vieux, à Marseille, tous les dimanches à 15h au départ de la porte d'Aix, il y a sans cesser des manifestations, des revendications pour que cesse au plus vite, pour qu'il y ait immédiatement un cessez-le-feu à Gaza, pour qu'immédiatement les vivres absolument indispensables pour la survie des gens qu'on affame là-bas rentrent enfin dans la bande de Gaza, et puis aussi pour que cesse la collaboration de certains États, dont l'État français, avec les crimes abominable et inacceptable que commet l'État d'Israël depuis des semaines et des semaines. Voilà. Donc ça continue, bien sûr. Et donc nous sommes le 6 juillet. Et au niveau de l'agenda, ben dans 2 jours, vendredi, là, après-demain, aura lieu à la place Labadie à Marseille, comme pendant tout le mois de cet été, avec la mairie des 1-7, le festival Avant le Soir, dans chaque petit ou grand parc du 1er et des 7e arrondissements, ont lieu à vers 18h30 des spectacles qui sont vraiment de qualité avec des super artistes et qui sont gratuits. Et donc après-demain, vendredi 8 août, ça sera à la place Labadier. Et du coup, la boutique Yabladi, qui a ouvert sur cette place il y a 3 ans, mais qui risque de fermer définitivement ce soir-là, c'est encore en discussion, eh ben, on installera un stand de dégustation, vente de produits de Palestine. Donc rendez-vous à la place Labadier de 17h30 à 21h à peu près. Voilà, sinon les dernières nouvelles que nous avons, on en parlera plus tard. Et puis tout de suite, donc, on va écouter Fatima. Fatima est la maman de cette famille d'ancêtres, on va dire la patronne dans le sens où elle gère depuis plus de 20 ans la petite entreprise France Import Palestine, mais également l'association Le Philistin. Et on écoutera ensuite Jean-Marie. Et donc cette famille-là, comme chaque été, est au festival Voix Vive de Méditerranée à 7. Alors non pas avec une boutique pour vendre des produits, mais avec un stand pour faire goûter la cuisine palestinienne. Donc tous les festivaliers, chaque soir à 7, peuvent goûter cette cuisine palestinienne. Alors on va entendre Fatima. Alors ça y est, on est parti des Saintes-Maries-de-la-Mer où nous avions emmené donc ce bateau Goélène et nous sommes arrivés à Sète, à la rue Villaret-Joyeuse. C'est un quartier de Sète qui est assez proche du môle. Quand on se penche au-dessus du mur, on voit la mer. Et en ce moment, c'est le fantastique festival de poésie Voix Vive de Méditerranée. Et nous sommes là parce que depuis plus de 10 ans, la famille d'Ancette installe un stand magnifique. Alors la famille d'Ancette, c'est cette famille qui vit en Aveyron et qui a créé depuis plus de 20 ans la petite entreprise France Import Palestine, grâce à laquelle des produits merveilleux sont importés de Palestine. On peut les voir sur le site internet fipsouk.fr. Cette famille a aussi créé l'association Le Philistin, on en reparlera. Et en général, quand Le Philistin est sur un événement, c'est pour mettre un stand magnifique pour vendre des produits alimentaires, des produits artisanaux, des livres, des kéfiers, des drapeaux. Mais quand ils sont à Sète ou à la fête de l'humanité, c'est un stand de cuisine, un stand de restauration. Alors je ne sais pas si vous entendez la musique, mais moi j'entends là les plats qui cuisent, il n'est que 19h30. Les gens bien évidemment sont aux événements de poésie. Et j'ai la chance d'être avec la mama de cette famille qui s'appelle Fatima. Alors Fatima, bien évidemment, c'est une mama hein, qui tient les cordons de la bourse, qui fait les comptes, qui organise un petit peu les commandes, etc. avec sa fille Indy. Mais c'est aussi une super cuisinière. Alors Fatima, là le stand il fait à peu près 10 mètres de long, je vois qu'il y a des superbes couleurs, évidemment il y a du rouge, du vert, du noir. Et alors qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu de ce festival? Qu'est-ce que tu leur fais à manger aux festivaliers qui adorent la poésie?
Bonjour déjà, et puis bah écoutez, j'essaye de montrer au maximum de mes compétences la cuisine palestinienne telle que je l'ai appris avec des Palestiniens et en Palestine également. Donc j'ai fait du makloubé, un soir j'ai fait du makloubé, c'est un plat traditionnel palestinien dans lequel il y a de la viande, du chou-fleur, des aubergines, des pommes de terre, du riz, avec des épices qu'eux utilisent couramment. J'ai fait aussi du friquet, du maftoul, avec du gigot d'agneau une fois et avec d'autres viandes, avec des escalopes de poulet à un autre moment. Ce soir, j'ai préparé des keftas avec du riz aux épices que les Palestiniens nous ont proposé de vendre. Donc je les essaye. Et c'est un mixte d'épices où il y a du curcuma, de la cannelle, de la cardamone, du poivre. Et donc j'essaye d'accommoder ça du mieux que je peux pour essayer de représenter au maximum la cuisine palestinienne. Ça, ce sont des plats que nous faisons tous les soirs.
Ok, ben on a entendu beaucoup de noms. Moi, j'adore cette cuisine, mais j'ai toujours du mal à retenir les noms des plats. En revanche, le nom des ingrédients, je commence à bien les connaître. Alors, tu nous as cité le friquet. Moi, d'abord, évidemment, je suis tombé raide dingue, addict du za'atar. C'est la raison pour laquelle, il y a 4-5 ans maintenant, j'ai créé un projet qui s'appelle la route du za'atar, où grâce à votre travail qui consiste à importer les produits palestiniens, de temps en temps, j'en mets sur le bateau, avec des produits marseillais, des produits varois, des produits d'origine grecque, espagnole, etc. Et on parcourt les côtes, le Var, les Alpes-Maritimes, la Corse, et on fait des échanges avec les paysans corses, c'est pour ça qu'on a du miel, du maquis, etc. Et bien sûr, dans les plats que tu as cités, le makloubé, tu peux reciter celui que tu fais ce soir où il y a de la viande, là, les boulettes?
Alors, c'est la kefta. Alors, j'ai fait cette semaine aussi ce qu'on appelle la kefta tahinée. Ah. Alors, ce sont des boulettes de viande hachée, du bœuf précisément, avec une sauce à base de tahinée qui est de la crème de sésame que nous importons, associée à du jus de citron, avec des épices également. Et ça se cuisine, ça se mélange, ces deux ingrédients se mélangent et se font cuire gratinés au four.
Okay.
Et c'est associé avec le fameux friquet.
Ok. Alors, les épices, évidemment, moi, je suis adorateur du za'atar. Et il y a d'autres épices, mais là tu me dis que récemment, parmi ce que vous importez, il y a justement des petits sachets où il y a un mélange qui est déjà tout prêt. Parce que c'est vrai que dans nos cuisines d'occidentaux, on a souvent des petits flacons avec plein d'épices, mais bon, on n'a pas le réflexe de les utiliser, souvent ils finissent par se périmer. Moi je note que ces épices, elles ne se périment pas tant qu'elles sont à l'abri du soleil, à l'abri de l'humidité, à l'abri des insectes, voilà. Et donc, parmi les épices que j'adore, donc il y a le za'atar, mais qu'est-ce que tu peux nous dire? Redis-nous le mélange d'épices qui est contenu dans ce sachet tout prêt là.
Alors il y a ce qu'ils appellent le mixed rice, c'est un mélange spécifique pour la cuisine du riz, où il y a donc du curcuma, de la cannelle, de la cardamone, du paprika, et aussi un peu de poivre.
Voilà, donc des couleurs extraordinaires qui donnent des saveurs. Et alors au niveau des couleurs, après être tombé addict du za'atar, moi ce que j'ai découvert aussi après le friquet, après le maftoul, après le tahiné, c'est la zourat. Alors j'ai pas le bon accent, tu peux nous dire zourat avec le bon accent?
Zourat.
Voilà, donc zourat ça veut dire fleur au pluriel. Parce qu'ici sur ce stand, donc, tous les festivaliers qui adorent la poésie peuvent se restaurer, mais évidemment il faut aussi se désaltérer. Alors bien évidemment on a toujours l'eau du robinet qui est quand même souvent bonne dans les villes françaises, mais il y a aussi de la bière. Il y a beaucoup de gens qui sont très surpris de savoir qu'on fait de la bière en Palestine. Alors là aussi le mot on dit ou taïbé ou taïeb selon.
Oui.
Ce que j'ai fini par comprendre, c'est que ce mot il veut dire délicieux et qu'il désigne également un village, un bled qui est proche de Ramallah, qui a des racines chrétiennes et dans lequel on a toujours fait de la bière délicieuse donc, et aussi du vin.
Voilà, et ce soir, toute la semaine, nous avons donc eu la chance de proposer donc les trois sortes de bières blondes, blanches et ambrées, ainsi que du vin blanc. Et du vin rouge en fonction des goûts de chacun.
Alors tout ça bien sûr c'est toujours à consommer sinon avec modération mais avec raison. Et puis j'aime également beaucoup boire donc la zourat qui est un mélange de fleurs. Alors sur les sachets il y a écrit infusion, mais depuis que j'ai compris à quoi ça correspond, en fait c'est une potion magique.
Exactement.
Alors c'est pas une potion magique qui renforce, j'allais dire, pour aller se battre, pour être violent, pas du tout. Donc dans les huit fleurs, il y a l'anis, le fenouil, la fleur de rose, la camomille. Donc tout ça c'est excellent justement pour tout ce qui se passe dans l'abdomen, la digestion, les reins, l'élimination des toxines, la circulation sanguine. Mais il y a également le thym et le romarin pour la sphère ORL. Et le clou de girofle et le carcadet. Donc j'invite tout le monde à goûter ça. On prend l'équivalent d'une boule à thé dans un thermos d'eau. On peut le boire chaud, on peut le boire froid, la nuit, le jour. Donc c'est une boisson qui désaltère, bien sûr, mais qui soigne aussi, qui apaise. En tout cas, merci de préparer toute cette cuisine. Je me languis de commander. Et alors, attends, tu nous as parlé de plats avec des viandes, avec des céréales, avec des légumes. Mais c'est sûr qu'on aime aussi parfois ce qui est sucré, les desserts. Alors, je ne sais pas ce qui est prévu là.
Alors, ce soir, on prévoit comme dessert le mahlabiyé, qui est un dessert aussi traditionnel palestinien. C'est un équivalent d'un flan, sauf que le flan, il y a des œufs dans le flan, alors que là, pas du tout. C'est à base de lait également, du fleur d'oranger. Et c'est associé avec de la pistache sur le dessus ou de la noix de coco si on souhaite, soit des raisins secs. Et quand on a la chance d'avoir du sirop de débès, qui est du sirop de raisin qui vient de Palestine.
Et ça, c'est dur d'en trouver, c'est pas fréquent.
Et non, c'est pas facile à avoir. Ensuite, le midi, je n'ai pas précisé que le midi, tous les midis, nous faisons des mezzés. C'est ce qu'il y a de plus commun en Palestine, donc c'est aussi une façon d'aborder la culture palestinienne à travers des plats très très communs qu'on trouve en Palestine. Le soir, ce serait plutôt des plats familiaux et le midi, c'est plus des plats dits de tout le monde, populaires, comme les falafels, le houmous, le moutabal, avec la fameuse salade traditionnelle concombre, tomate et jus de citron, puisqu'ils consomment beaucoup de jus de citron. Et cette association est très bonne aussi au niveau diététique, puisque ça, c'est reconnu que c'est très très bon pour la santé d'après les Palestiniens.
Ok, franchement, merci beaucoup Fatima, tu me donnes l'eau à la bouche, mais quand même, on est au festival de poésie, on entend bien dans la voix de Fatima à quel point tous ces plats sont poétiques, rien que leur nom, leur couleur, leur saveur. Et chaque année, le festival donc Voix Vive de Méditerranée donne la parole bien sûr à beaucoup de poètes méditerranéens et toujours la parole à la Palestine. Et donc cette année, c'est le poète Samer Abou Awash qui est intervenu. J'ai devant moi un petit poème et je vais le lire. Il s'appelle « Décombre », « Décombre » au pluriel. « Toi qui viens de loin, debout au seuil de cette fin du monde, le nez empli d'horribles relents flottant dans l'air. Toi qui foules cette terre dévastée, ralentis, il y a une enfant qui sort la main de dessous les décombres, le cœur affolé. » Voilà, c'est un poème de Samer Abou Awash au festival Voix Vive de Méditerranée. En tout cas, la poésie, elle est tous les jours sur le stand du Philistin, rue Villers et Joyeuse. Le festival se termine demain, mais il a lieu chaque année, fin juillet. Et ceux qui souhaitent goûter la cuisine du Philistin, ils seront présents au festival, à la Fête de l'Humanité à Paris, ça sera en septembre. Merci encore Fatima, et maintenant on va manger tes bons plats.
Merci à toi.
Alors nous étions avec Fatima. Fatima, c'est donc la maman de cette famille d'ancêtres qui s'occupe beaucoup de la gestion de l'entreprise Fipsouk, de l'association Le Philistin, et puis surtout donc au festival Voix Vive de Méditerranée, elle et son équipe, avec Indy, avec des gens de Sète, avec Valentin, elle fait beaucoup de cuisine pour restaurer tous les festivaliers qui aiment Sète en général et la poésie en particulier. Et là, maintenant, on est avec le Baba. Alors, le Baba, il s'appelle Jean-Marie, mais beaucoup de gens l'appellent Djemma, c'est un diminutif de Jean-Marie, et d'autres l'appellent Abou Djihad. Alors, Jean-Marie, moi, je ne suis jamais allé, contrairement à toi qui y vas depuis plus de 20 ans en Palestine, mais grâce à toi, à tout le travail que vous faites, j'ai d'abord appris à connaître les produits de Palestine. Je suis tombé raide dingue du za'atar, puis de la zourate, le friquet, des dattes medjoul, etc. Et puis grâce au festival que vous organisez les années impaires, le festival Palestine en campagne, j'ai pu découvrir beaucoup de Palestiniens, de Palestiniennes qui viennent de là-bas, que vous réussissez à faire venir, que ce soit l'archevêque orthodoxe de Jérusalem. Je me souviens l'an dernier, il y avait un kiné, l'an dernier, non, il y a 2 ans, c'est les années impaires. Il y avait un kiné, il venait d'où ce kiné?
C'était le masseur du hammam de Naplouse.
Voilà, on rencontre des gens comme ça, interrofacteurs, évidemment, des écrivains, des musiciens. Alors ce festival Palestine en campagne se déroulait donc jusqu'en 2023 autour du 15 août là-haut en Aveyron, d'où le nom, hein. Palestine en campagne, au double sens du terme, la campagne aveyronnaise est magnifique et c'est aussi évidemment un festival militant, hein. Les Palestiniens sont toujours en campagne, ceux qui les soutiennent sont toujours en campagne et même plus que ça. Mais l'année dernière, parmi tous les visiteurs qui viennent de la France entière et même de l'Europe du Nord, sont venus des gens de Bobigny. Et quand ils ont vu ce qu'ils ont vu, quand ils ont entendu ce qu'ils ont entendu, c'est-à-dire un endroit où on donne vraiment la parole aux gens de Palestine, y compris il y a 2 ans, il y avait un Samaritain, ils ont souhaité avoir ce festival là-haut à Bobigny. Évidemment, ils ne pouvaient pas le préparer tout seuls. Évidemment, vous êtes allé assez récemment en Cisjordanie, à Jérusalem, rencontrer...
En Palestine,
ah oui, bien sûr. Moi, je dis encore, toujours un petit peu de bêtises parce que j'apprends beaucoup, mais tout est un petit peu compliqué. Et là, on espère très très fort qu'il va avoir lieu de nouveau autour du 15 août. Mais tu m'expliquais là que c'est encore plus compliqué que d'habitude. Alors, comment ça se passe là pour l'organisation? On est à moins d'un mois de ce festival. On en est où?
Alors, les préparatifs localement, donc à Bobigny, évidemment, par rapport à notre village, ils ont beaucoup plus de moyens techniques. Voilà, ils sont très soutenus par la mairie. Une municipalité de Bobigny. Par contre, la situation en Palestine compliquée avec des bombardements sur l'aéroport par les Yéménites, des Israéliens qui s'en vont par Amman alors qu'ils partaient tous par l'aéroport de Tel Aviv, comme on dit, donc ils partent par l'aéroport de Amman, donc plus compliqué, les prix ont monté. Alors, où on en est aujourd'hui donc. Là, on est en train de collecter tous les gens qui ont les visas. Il y a eu certains refus de visa, mais il y en a déjà pas.
Alors attends, avant de parler des refus, bon, on a bien compris que tout est compliqué au sujet de la Palestine, mais il y a un teaser qui a déjà été publié sur les réseaux. Et admettons que les gens aient les visas, est-ce que tu peux nous dire quels sont les gens que vous avez visités récemment avec Sabri Giroud, avec Belkacem de Bobigny et qui sont attendus à ce festival?
Pour la troupe de Dabke, c'est une troupe qui va venir de Jérusalem.
Ok.
Donc là, c'est à peu près ok au niveau des visas. Après, on espère le visa du compteur, un compteur populaire. On va avoir aussi au niveau des conférences Sami Aboushadeh, c'est un ancien député à la Knesset, député palestinien citoyen d'Israël. Lui fera une conférence après comme ça.
Crois que tu attendais un grand torréfacteur aussi. Un grand torréfacteur qui fait du café, qui fait des chocolats.
Il a été invité, mais je ne pense pas qu'il sera là.
En tout cas, ça s'appelle Easy Man. Alors, ce n'est pas Easy E-A-S-Y, c'est I-Z-H-I. Et c'est un torréfacteur magnifique. Moi, j'ai découvert grâce à ça le café à l'oriental, à la cardamone. Voilà, on a compris qu'il y a des invités très divers, très variés. Mais à l'heure où on se parle, on est ici donc au festival Voix Vive Méditerranée. Quand les gens du Philistin participent à un événement, en général, ils font un stand toujours très beau, mais souvent, c'est pour vendre des produits alimentaires ou artisanaux qu'ils réussissent à importer de Palestine. Mais ici, à Sète, au festival Voix Vive de Méditerranée, qui a lieu chaque année à la fin du mois de juillet, c'est pour faire une grande restauration. Et donc, évidemment, on espère tous que le festival Palestine en campagne aura bien lieu à Bobigny entre le 15 et le 17 août. Et si c'est le cas, bien sûr qu'il y aura une énorme boutique où on pourra acheter des produits, où on pourra acheter des livres, rencontrer les écrivains qui les dédicacent et bien sûr, apprécier cette cuisine palestinienne. Donc l'actualité, c'est qu'on attend de savoir si effectivement il faut réserver les billets d'avion, parce que ben, les visas sont compliqués. Alors de quel soutien pour organiser un festival aussi compliqué vous pouvez compter en France? Sur quel soutien vous pouvez compter?
Alors en fait, cette activité qu'on a en particulier du Festival Palestine en campagne, il est très bien reçu chez les Palestiniens, parce que bon, il y a un mot qui est un peu à la mode là maintenant, qui devient à la mode justement par rapport au conflit, c'est humaniser les Palestiniens. Et c'est ce qu'on fait depuis plus de 20 ans. C'est-à-dire que les Palestiniens qu'on réunit dans ce festival, ce sont des Palestiniens qui viennent de Palestine. Et j'aime bien dire qu'ils arrivent de Gaza, qu'ils arrivent de Palestine de 48, Saint-Jean-d'Acre ou de Naplouse, ils viennent avec l'air palestinien. Hein, je précise parce que bon, les Palestiniens, il y a des Palestiniens en Europe aussi, qui ont aussi des qualités, qui ont aussi des choses à apporter. Mais nous, on ne veut pas de pollution, de la pollution occidentale automatiquement. Donc c'est les Palestiniens qui viennent de leur pays.
Alors c'est très important ce que tu dis, parce que quand on a eu enfin là, les médias qui se sont mis quand même à parler, pas du conflit, mais de l'abominable campagne d'extermination de ce peuple, on parle depuis très longtemps de déshumanisation. On le parle y compris pour les ouvriers qui sont des numéros qu'on fait travailler. Mais ce dont on parle depuis beaucoup plus de temps maintenant, c'est l'infra-humanisation, c'est-à-dire cette espèce de propagande qui ferait croire, ils le disent eux-mêmes, Netanyahou, ils disent que c'est pire que des animaux, donc ça s'appelle ça l'infra-humanisation, c'est-à-dire considérer les êtres humains moins que des êtres humains, et à partir de là, ben c'est normal, entre guillemets, qu'ils souffrent, c'est pas grave qu'on les tue, etc. Et donc tout ce qui peut être fait, comme tu dis, pour humaniser ces gens-là, pour leur donner un nom, pour goûter ce qu'ils goûtent, pour lire ce qu'ils lisent, c'est très 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 important. Donc on espère que ce festival pourra avoir lieu à Bobigny, mais ce qui est sûr, c'est que chaque année, il y a un autre festival très important, c'est la Fête de l'Humanité. Alors là, on est sûr qu'il aura lieu. C'est quand la Fête de l'Humain, déjà, rappelle-nous ça, justement, l'Humanité?
Je crois que c'est le deuxième week-end de septembre.
Voilà, donc c'est mi-septembre. Donc là, c'est facile, on trouve sur tous les réseaux Fête de l'Humanité. Et là, parmi tous les stands qui parlent d'humanité, on retrouvera donc le stand du Philistin qui humanise les Palestiniens, qui permet de les rencontrer, de les lire, de savourer leur cuisine, etc. Mais pour revenir au travail que tu fais avec l'entreprise France Import Palestine et le Philistin, je crois que tu as encore évidemment d'autres choses à nous dire. Alors vas-y.
Non, je voulais compléter sur la question d'humanisation, mais tu m'as demandé de quel soutien. Bon, voilà. Et donc, le fait que, bon, pour l'ambassadrice de Palestine en France, donc, notre travail, c'est très important pour elle, parce que justement, depuis 20 ans, on est là pour justement montrer ce que font les Palestiniens, leur production de qualité, de haute qualité. Et notre démarche, justement, avec l'association Le Philistin, sur nos stands, par exemple, si tu vas sur notre stand, tu verras des cartes. Il y a une très belle carte qui date de 1917, où là, il y avait ce qu'on appelait Bilad Hicham, c'est-à-dire la Grande Syrie, où il n'y avait pas de frontières, et puis la fin de la Première Guerre mondiale, et l'Empire ottoman est découpé par les Français et les Anglais. On se rappelle de Laurence d'Arabie, voilà. Et donc, on montre les cartes. Alors, une carte de la Palestine historique aussi, parce que bien souvent, les gens... Et moi, je fais l'expérience, c'est terrible, quoi. Parce que quand je pose la question à des gens qui passent sur le stand et qui sont sympathisants, qui ont de l'empathie pour les Palestiniens, si je leur demande quelle est pour vous la capitale de la Palestine, j'entends vraiment de toutes sortes de choses, n'importe quoi. On peut dire qu'une personne sur 10 va dire que c'est Jérusalem occupée. Mm. Mais sinon, j'entends Gaza, j'entends Naplouse.
Voilà. Non, mais c'est certain qu'en Europe, en particulier en France, il y a une désinformation totale. Même ceux qui ont fait des études, ne serait-ce que par exemple, quand les gens voient sur le stand qu'il y a de la bière de Palestine, la plupart d'entre eux, ah bon ? Parce qu'ils sont persuadés qu'il n'y a que des barbus farouches qui vont égorger les gens qui boivent de la bière. Non, la bière en l'occurrence, elle s'appelle Taïbé ou Taïeb. J'avoue que j'ai du mal à comprendre la prononciation de deux façons. Mais Taïbé, ça veut dire délicieux, c'est effectivement une bière délicieuse. Et Taïbé ou Taïeb, c'est aussi un bled, un village, à côté de Ramallah, qui a des racines chrétiennes, où on a toujours fait de la bière, donc délicieuse, et du vin. Donc c'est sûr que ces stands quand on vend les produits, sont très importants pour faire découvrir la réalité de tous ces savoir-faire essentiels qu'ont ces gens-là, qu'ils soient hommes, qu'ils soient femmes, que ce soit des broderies, que ce soit le travail du bois d'olivier, le travail du verre soufflé, le cuir. Moi, j'ai la chance d'avoir des sandales magnifiques là, qui viennent de Naplouse, qui sont vraiment de haute qualité. Bien sûr, toute leur poésie. Et encore une fois, ce qui est fondamental, c'est la cuisine. Donc, merci beaucoup de faire ce travail pour apprécier la cuisine palestinienne. Donc là, il est 20h, on est à 7, on est à la rue Villaret-Joyeuse. Le festival se termine demain, mais chaque année, c'est fin juillet. Et chaque année, le stand du Philistin arrive. Sauf que c'est parfois un petit peu plus compliqué de l'installer. Évidemment, il y a des produits palestiniens, mais il y a aussi, vous l'avez compris, des cartes. Il s'agit aussi d'informer, des livres. Et alors, quel souci maintenant tu rencontres en plus, en prime, de ces difficultés, que ce soit à 7 ou ailleurs d'ailleurs?
Voilà, depuis plus de 10 ans, on participe à ce festival et on hisse les couleurs de la Palestine. Et là, depuis déjà l'année dernière, on a eu des pressions pour enlever ce drapeau, ce grand drapeau qui flotte. On est très fiers, quoi. Et c'est vrai que les Palestiniens qui sont en Palestine, quand on leur envoie des vidéos avec leur drapeau qui flotte en France, ils sont très heureux, quoi.
Voilà, moi, j'ai eu moi-même le problème. Depuis 4 ans, grâce à toi en particulier, je développe le projet de la route du Zaatar. Sur mon voilier, je transporte des produits de Marseille, des produits varlois, les produits de Palestine importés par Fipsouk, et on va en Corse et on échange avec les Corses, en Sardaigne, etc. Et l'année dernière, le 25 septembre, journée internationale de la paix, dans le Vieux-Port, et mon bateau, comme d'habitude, j'avais plein de drapeaux, le drapeau de la paix, le drapeau corse et le drapeau palestinien, et je me suis fait carrément insulter par un agent, par un fonctionnaire. Alors là, on veut nous l'interdire, mais enfin, je rappelle qu'il y a un an, jour pour jour, ou presque, il y avait les Jeux Olympiques à Paris, il y avait une délégation palestinienne, et le drapeau palestinien a été hissé au Stade de France, etc. Donc en France, on veut nous interdire, on veut presque criminaliser, on veut, on veut verbaliser, on veut opprimer, réprimer toutes celles et tous ceux qui soutiennent ce peuple. Donc on est désolé, mais ce drapeau, il existe. On répète qu'il était hissé aux Jeux Olympiques, donc c'est très bien qu'il soit hissé à Sète, c'est très bien qu'il soit hissé à Paris, à Marseille, etc. Donc merci le GMA, merci le Philistin. On croise les doigts pour que le Festival Palestine en campagne ait lieu autour du 15 août à Bobigny. Et en tout cas, on vous retrouve dans plein d'événements en France. Il suffit de taper le Philistin ou Fipsouk et on les retrouve.
Pour préciser avec l'histoire du drapeau, c'est-à-dire que cette année, à nouveau, on nous a fait pression pour enlever le drapeau et pour sauver le festival, parce que nous, si on enlève le drapeau, on s'en va,
oui. Hein,
c'est clair. Mais on a trouvé un bon compromis grâce à Valentin qui travaille avec nous. Il a eu l'idée de dire, bon, le drapeau, on le déplace de notre stand de cuisine, mais on le met chez le voisin d'en face. Donc là, c'est un particulier qui a affiché, évidemment, il y a tellement de sympathisants pour la Palestine, le voisin d'en face a accepté de mettre le drapeau sur son balcon et il est encore en meilleure évidence. Donc on est toujours gagnant dans la partie là.
Ok, bon, merci encore. Et maintenant, il va être le temps de goûter le bon makloubé. Mais j'ai encore oublié le nom. Le plat qu'on fait avec les boulettes de viande.
Les keftas,
voilà. Bon, bon appétit à tous. On est sur le stand du Philistin à 7 et on vous donne rendez-vous aux prochains événements. Voilà, sur le stand du Philistin, il y a toujours des super bonnes musiques. Mais là, on va en écouter une en direct. Alors, cette musique, comme souvent, c'est la jeune Rislaine qui nous a donné le lien. Rislaine est la jeune femme qui anime la boutique Yabladi. À la place Yabladia, encore quelques temps. On rappelle qu'après-demain, le 8 août, elle va peut-être fermer définitivement. Et donc, on écoute de la part de Rislaine, Roula Azar.
على
qui est présenté comme du folk palestinien moderne. Donc merci encore à Rizlen pour nous avoir transmis le lien vers cette musique de Rola Azar. Donc c'est du folk palestinien moderne. Rola est née à Nazareth et elle a une carrière qui se développe. Elle a donné des concerts à Londres, etc. Voilà, alors cette émission sur Radio Galère, Une heure en Palestine, est forcément très méditerranéenne. On entendait tout à l'heure la famille d'Ancette enregistrée à Sète pendant le festival Voix Vive de Poésie. Et là, tout de suite, on va avoir au téléphone un autre Philippe, cette fois qui est à La Ciotat et qui fait partie des gens qui ont créé le collectif Palestine à La Ciotat. Allô, Philippe ?
Oui.
Ah ben c'est bonjour. Super d'entendre ta voix, là. Nous sommes nous avec Sidi et Marie à la Friche Belle de Mai au studio Radio Galère et toi tu es à La Ciotat, alors on aurait de t'avoir au téléphone. Donc en fait on s'appelle tous les deux Philippe mais on ne se connaissait pas jusqu'à ce que tu viennes avec quelques amis de La Ciotat sur le stand, là, le fameux stand de la route du Zaatar que j'installe chaque fois que je le peux le dimanche matin au marché du Port-Vieux de La Ciotat. Et c'est ainsi que j'ai appris ben, la naissance il y a plusieurs mois déjà, donc du collectif Palestine La Ciotat. Il s'appelle comme ça le collectif ?
Oui, collectif Palestine, c'est un collectif en fait qui a été créé en avril 2024 avec une série d'organisations que j'ai pu regrouper et intégré dans un collectif qui est devenu collectif Palestine, mais il n'y avait pas d'appellation contrôlée, quoi.
D'accord.
Donc, donc dans ce collectif, il y a la section locale du PC, du Parti communiste, il y a la France insoumise, il y a un collectif qui s'appelle Pour que vive le nouveau Front populaire à La Ciotat, qui regroupe des gens, surtout des gens non incartés qui souhaitent une unité à gauche. Et puis il y a Palestine 13, à FPS, parce que je fais partie aussi, moi, de l'Association française pour Palestine Solidarité.
Ok, voilà, et je crois donc c'est tous les dimanches à peu près vers 10h que vous vous regroupez donc sur les marches de cette magnifique grande église du Port-Vieux de La Ciotat. Et je sais que à chaque dimanche, ben, vous distribuez un tract que vous réactualisez selon l'actualité qui malheureusement est de plus en plus terrible, en particulier bien sûr quand on parle de Gaza. Mais je crois aussi que vous avez comme objectif, lorsque vous vous réunissez le dimanche matin à La Ciotat, quand je dis le matin, ça dure au moins jusqu'à midi, hein, vous avez aussi l'objectif de collecter de l'argent pour soutenir un Gazaoui, son prénom est Mohamed, que vous avez, je dirais, presque adopté, voilà, pour le soutenir, et puis soutenir surtout, bien sûr, je dirais, des survivants de sa famille à Rafah, c'est ça, je dis pas de bêtises.
Non, ils étaient à Rafah, mais comme tu le sais, beaucoup de Gazaouis n'ont pas cessé de bouger.
Je crois qu'ils
sont leur quatrième point de quatrième tente, pas quatrième lieu pour mettre leur tente. En fait, ils habitaient à Rad Yunis, ils ont été à Rafah, puis rebousculés à Rad Yunis, rebousculés à Deir el-Bala, puis revenir à Rad Yunis. Enfin bon, ils n'arrêtent pas. Et donc, effectivement, ils étaient une grande famille élargie de 82 personnes tout à fait au début. Puis ensuite, ils ont été dégroupés, regroupés. Il y a eu des morts dans la famille. Malheureusement, on les compte sur les doigts des deux mains. Donc c'est une affaire que l'on suit. Et on suit d'autant plus que, comme cet argent arrive chez eux, on a des nouvelles d'eux, on a des photos d'eux qui nous remercient, parce qu'ils nous remercient la Ciotat, c'est assez émouvant, on a nos photos dans leur tente. Donc c'est très sympa pour ça, mais en même temps, on s'aperçoit de façon très tangible la difficulté de vivre, la difficulté de se nourrir, le fait qu'ils ont une fille qui aurait besoin d'être hospitalisée, qu'ils essayent de faire sortir par l'Égypte, mais ils n'y arrivent pas.
Oui.
Donc on mesure par cette relation directe avec une famille ce qui se passe en réalité dans cette enclave de Gaza.
Oui, c'est sûr que c'est ça qui est intéressant. En même temps, c'est aussi une façon originale de se mobiliser. Moi aussi, je fais partie de Palestine 13 et je sais que parfois, certaines organisations préfèrent collecter des dons pour des associations, pour des structures, plutôt que des personnes en particulier, mais je dirais que la situation est tellement terrible que toute bouteille, c'est presque des bouteilles à la mer, en fait, toute tentative d'aider à la survie, parce qu'il s'agit de ça, hein, c'est de la survie, elle est à faire, voilà. Et donc je crois qu'effectivement, chaque dimanche, vous collectez, tu peux nous dire, enfin, on n'est pas là pour parler d'argent, mais si quand même.
Oui, alors si tu veux, j'avais démarré moi par une cagnotte personnelle dans un truc qui s'appelle Litchi, que je recommande à personne, du reste parce que ils ont été très difficiles pour retirer l'argent, il a fallu que je fasse patte blanche, j'avais vraiment l'impression qu'ils n'étaient pas du tout favorables à ce conflit et aux Palestiniens, et donc j'ai réussi à capturer sur cette cagnotte 920 euros, mais au bout de 3 mois. Donc ça, c'était en mars 2024.
Oui.
Mais après, si tu veux, sur le fait qu'à chacun des rassemblements que l'on fait chaque dimanche, et dimanche prochain, le 3 août, ça va être le 63e dimanche qu'on va faire ça, on a une petite cagnotte. Et là, au total, on a pu verser 15 000 euros à la famille de Mohamed.
Mais écoute, bravo pour ce que vous faites, c'est super. Et puis surtout, on espère que psychologiquement... parce que c'est quand même terrible, voilà, il est là, les autres sont là-bas, et il en disparaît assez régulièrement, et même s'ils ne disparaissent pas, ils ont des conditions de vie terribles. Donc voilà, même si certains disent, oui, pourquoi aider l'un plutôt que l'autre, ben, chaque personne qu'on peut aider, il faut le faire, et puis c'est tout. Voilà, et puis par ailleurs, je voudrais qu'on parle aussi, quand on s'est rencontrés, là c'était il y a pas mal de temps déjà, et à la Ciotat, bien sûr, il y a plein de choses fantastiques, et entre autres, ce fameux cinéma, l'Eden Théâtre, hein, qui est réputé comme l'un des plus anciens du monde encore en activité. Et puis, comme d'autres fois, ce cinéma participe à la diffusion du Festival du film israélien. Et pourquoi pas? Et donc, vous étiez allé le voir pour leur dire, bon, ok, mais nous, on aimerait bien aussi que soit diffusé un film palestinien. Et en l'occurrence, mais finalement, c'est un film israélo-palestinien qui a été diffusé là-bas le 15 février. Et pas n'importe lequel, hein, puisque c'est le fameux documentaire No Other Land, qui, quelques temps après, a eu l'Oscar. Alors bon, je ne vais pas jusqu'à dire que c'est grâce aux Ciotadins que New Zealand a eu l'Oscar, mais bon, voilà, la Ciotat a participé à sa promotion. Et puis ensuite, il s'est passé quelque chose de terrible quand même, hein, c'est que bien que le film ait été oscarisé, dès que l'un des réalisateurs est rentré dans son village, là, il s'est fait tabasser par des colons, il s'est fait arrêter par des flics, mais ils l'ont pas amené à l'hôpital, ils l'ont amené en prison. Enfin bref, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, avec le recul, comment ça s'est passé avec l'Eden Théâtre? Est-ce que c'était qu'une seule fois?
Comme tu l'as rappelé, il y a eu des rencontres autour du cinéma israélien qui se déroulent comme chaque année. Ça s'est déroulé du 14 au 17 novembre 2024 à Marseille et à La Ciotat.
Oui.
Et quand j'ai vu les organisateurs, normalement, d'abord j'avais été voir le responsable qui m'avait dit « Écoutez, on fait ça tous les ans, il n'y a pas de souci, c'est neutre, etc. » Et donc, j'avais dit, OK, mais nous, ça nous dérange quand même. Je suis allé voir les organisateurs. Quand j'ai vu que dans les organisateurs, il y avait le CRIF.
Ah bah toujours. Hein.
Ouais. Et donc là, je me suis dit, bon, d'accord, j'ai compris. Le truc, c'est pas si neutre que ça.
Mais attends, donc, d'abord, on peut pas... Excuse-moi de te couper, mais quand on parle de l'État d'Israël, on peut pas, ou de quelque chose qui provient d'Israël, on peut pas utiliser le mot neutre. Avec ce que commet cet État, on peut
évidemment, voilà. Évidemment, mais si tu veux, on avait une raison supplémentaire pour dire au directeur du cinéma de l'Éden qu'il fallait déprogrammer ces rencontres.
Oui.
De toute façon, elles ont eu lieu. On est allé faire une action, un rassemblement devant le cinéma où on s'est fait du reste agresser par des personnes qui étaient pro-israéliennes, assez violentes.
Oui.
Et donc, nous, on leur a dit que la programmation de ces rencontres est indécente et complètement inopportune.
Oui.
Donc, on a fait ça. Alors, après cette projection, je suis allé retrouver le directeur en disant, écoutez, là, vous nous avez vraiment, fait une salade avec votre histoire de neutralité, etc. Déjà, on était contre le principe, mais en plus, vous avez dit que c'était neutre, et quand il y a le CRIF, vous exagérez un peu. Donc,
oui.
Moi, ce que je vous demande, c'est de nous faire une projection d'un film pro-palestinien, pour compenser cette
oui.
affaire.
Et c'est ce qui s'est passé.
C'est ce qui s'est passé, ce que tu as rappelé tout
voilà.
à l'heure.
Et moi, j'y étais, la salle était pleine, donc voilà, la question, c'est
la salle était pleine, c'est ça, formidable.
Bien sûr, bien sûr. Et du coup, est-ce qu'il y a des perspectives éventuelles pour que ce cinéma, ben, parce qu'il y a quand même à Marseille, depuis 4 ans, on a l'équipe fantastique du Festival Ciné-Palestine, hein. C'est un festival qui existe depuis 11 ans à Paris. Donc voilà, est-ce qu'il y a des perspectives pour que l'Eden Théâtre voilà, fasse partie? Parce que c'est quelque chose de très très important, le cinéma palestinien, que ce soit des documentaires ou des fictions, est très actif. Voilà, est-ce qu'il y a des perspectives avec ce cinéma ou pour l'instant c'est en stand-by?
Bah écoute, on a fait une nouvelle tentative de programmation d'un autre film sur Gaza. Malheureusement, ils n'ont pas accepté en disant bah, on a déjà fait un effort,
oui.
etc. Donc pour l'instant, il n'y a pas un bon accueil. Et donc si on le fait, on va mettre la pression.
D'accord. Bon, on compte
mais
sur vous. On savait
que.
Oui, on sait qu'à La Ciotat, il y a des combattants. Moi, ce que je sais aussi, c'est qu'à La Ciotat, il y a aussi un lieu extraordinaire qui s'appelle La Boutique. Alors il est très mal nommé parce que ce n'est pas une boutique, hein, c'est un lieu de rencontre, etc. Où c'est là que j'ai vu pour la première fois Sarah Katz, hein, cette fameuse femme juive qui vivait à Gaza dans les années 2010 et qui a fait des images amateurs qui ont finalement été montées au printemps 2024 dans un film que je trouve merveilleux qui s'appelle Aimer la mer à Gaza. La Ciotat est au bord.
Voilà, c'est la campagne de Pierre Stamboul.
Voilà, La Ciotat.
La Ciotat. Et en tout cas, elle est venue faire effectivement une conférence à La Boutique.
Voilà, attends, Philippe, juste un truc. Donc, La Ciotat est au bord de la mer. Donc, je compte bien qu'on puisse projeter ce film Aimer la mer à Gaza. Et puis, on va être obligé de te laisser parce que l'émission dure une heure, on a d'autres sujets. Mais ce que je voulais dire aussi, puisque La Ciotat est au bord de la mer, on a en ce moment à nouveau un bateau qui est parti de la Méditerranée occidentale pour, entre guillemets, tenter de forcer le blocus de Gaza. On sait bien qu'il n'y arrivera pas, hein, puisque ça fait des décennies que des bateaux partent. Donc ce bateau, il s'appelle Andala. On a eu la chance de l'accueillir l'année dernière à Martigues. Et puis surtout, il avait été très très bien accueilli à Ajaccio, au Portinour aussi. Voilà. Et là, il y a un appel qui se multiplie pour que parmi tous les marins qui naviguent sans arrêt en Méditerranée, il y en ait plus qui se dirige vers Gaza. Il y a quelque chose qui se programme autour du 15 septembre, autour de Lampedusa, qui est plutôt lié à SOS Méditerranée. Voilà. On essaye, les marins, d'avoir vraiment cette action de solidarité de gens de mer. Écoute, merci beaucoup, Philippe. Bonne continuation pour le collectif à La Ciotat. À très bientôt, que ce soit sur le marché du Port-Vieux avec le stand de la route du Zatar. Et puis, on l'espère, à l'Eden Théâtre pour d'autres soirées de cinéma Palestine. Merci beaucoup, Philippe. À bientôt.
Palestine vivra, Palestine vaincra.
Exactement.
Allez,
et La Ciotat aussi. Au revoir. Merci beaucoup. Voilà, on a eu des gens enregistrés à 7, on a eu Philippe au téléphone à La Ciotat, et on a la chance d'avoir de nouveau au studio de Radio Galère, Marie, la réalisatrice, la co-réalisatrice du podcast Yalla, je t'emmène en Palestine, qui s'était installée à Marseille il y a quelques mois, qui n'est pas encore journaliste, mais qui a beaucoup de compétences dans ce domaine et qui en plus a des compétences techniques. Donc merci Marie de contribuer à cette émission en Europe en Palestine. Et puis surtout, c'est très important que tu sois là parce que tu reviens de nouveau séjour de 2 mois en Palestine. Alors on t'avait eu au téléphone la fois quand tu y étais justement, au moment de ce fameux 13 juin, où il y a eu l'attaque de l'armée d'Israël et des États-Unis contre des sites stratégiques en Iran. Et c'est très, très précieux d'avoir des gens comme toi qui sont parfois ici, qui sont parfois là-bas, et qui nous disent des réalités du terrain. Moi, encore une fois, je ne suis pas un politologue ni un expert en je ne sais quoi. Je suis animateur, je pense être expert en relation entre les êtres humains. Et donc, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, là, ce dernier voyage, qu'est-ce qui se passe? Quelle est l'ambiance en Cisjordanie, puisque c'est surtout en Cisjordanie que tu étais?
Bonjour Philippe. Oui, c'est ça. J'ai passé les 2 derniers mois en Cisjordanie, essentiellement à Ramallah, mais j'ai bougé un petit peu aussi cette fois-ci parce que l'idée, c'était de récolter le plus de matériel et d'interviews possible pour faire la 2e saison de Yalla, je t'emmène, qui va nous emmener du coup dans d'autres villes que Ramallah, parce que Ramallah n'est pas représentatif de toute la Cisjordanie. Il y a la bulle de Ramallah dont on parle dans un des épisodes. Et donc, je suis allée dans le sud, vers Massafariata, qui est la région où se passe Noatoland, le film dont tu parlais tout à l'heure.
Ah, le film Noatoland, ok.
Exactement, je suis allée à Bethléem, je suis allée aussi à Jérusalem rencontrer un dresseur de pur sang arabe, je suis allée voir une bodybuildeuse à Sinjil. Sinjil, c'est un village un peu au nord de... entre Naplouse et Ramallah, pour ceux qui voient, donc au nord de Ramallah, pour aller voir ce qui est en train d'être installé par l'armée israélienne, c'est-à-dire des barbelés autour d'un village. Ils sont en train d'enclaver complètement un village.
D'accord, parce que quand tu nous écrivais le début de ton périple, on avait l'impression que tu allais là-bas en touriste, en quelque sorte, rencontrer un peu qui tu veux, comme tu veux. Mais j'imagine que ces déplacements ont été compliqués, peut-être plus que les autres fois. Est-ce que tu as senti une différence pour te déplacer cette fois-ci, donc en juin et juillet 2025? La fois précédente, c'était quand ton...
C'était fin d'année dernière, voilà. Jusqu'à novembre, donc septembre, octobre, novembre.
Voilà, parce que bien sûr, on est quand même très très au courant des drames affreux qui se passent à Gaza, mais on entend aussi que sous prétexte de la guerre, il y a des colons qui sont de plus en plus agressifs. Donc est-ce que tu as senti une différence ce coup-là par rapport au coup précédent pour te déplacer entre ces villes de Cisjordanie?
Oui, il y avait une différence. Alors ce que disent les Palestiniens très souvent, c'est que la situation était déjà... En Cisjordanie, hein, je parle, la situation était déjà grave avant et que maintenant elle est juste pire. Donc là, on parle d'environ 900 checkpoints, donc des barrages militaires israéliens en Cisjordanie. Donc c'est illégal, évidemment. Et donc, je pense que ce qui a changé par rapport à la dernière fois, c'est que j'ai jamais vu autant de Palestiniens, et je dis sciemment Palestiniens, pas de Palestiniennes, se faire humilier à des checkpoints. Ça a été une grosse différence. Tous les checkpoints que j'ai passés, il y avait des Palestiniens qui étaient... dans diverses situations, mais toujours mise en joue par l'armée israélienne, plus par des soldats israéliens, plus qu'avant. Ouais. Ouais.
En revanche, toi, en tant qu'occidental, on t'a pas plus embêté que d'habitude, parce que quand même, à force, tu dois commencer à avoir une réputation de journaliste, puisque tu prends des infos, enfin pas encore. Donc je vois que tu fais l'amour, parce que je voudrais qu'on parle de ça. On sait très bien que c'est très précieux d'avoir des gens qui y vont, parce que malheureusement, les organes de presse internationaux sont interdits d'y aller et les journalistes se sont fait tuer par centaines à Gaza. Et on en parlait tout à l'heure, les journalistes qui officient encore en Cisjordanie, ils sont plus que traqués, ils sont plus que ciblés. Comment ça se passe pour eux là maintenant, pour les journalistes?
Ils sont extrêmement précieux parce que c'est eux qui connaissent beaucoup mieux le terrain que les journalistes internationaux. Donc tous les journalistes internationaux, on s'appuie sur des fixeurs ou sur des journalistes locaux. Mmh. Et on en a d'autant plus besoin en Cisjordanie que... c'est un territoire qui est morcelé complètement justement à cause de ces checkpoints par exemple et puis les attaques de colons sur les routes en Cisjordanie. Donc on a besoin de gens qui sont vraiment sur place quand les déplacements sont interrompus. Et oui, évidemment, malheureusement c'est dur de comparer Gaza et la Cisjordanie et j'aime pas trop le faire non plus. Mais il y a cette même chose que si on porte une veste de presse ou en tout cas un signe qu'on appartient à un organe de presse, on est potentiellement, en tout cas en tant que Palestinien, on est potentiellement cible de l'armée israélienne. Et d'ailleurs, les journalistes internationaux aussi, hein, il y a eu des journalistes de France 24 qui ont eu des tirs de sommation, c'est-à-dire des tirs dans les pieds pour...
Voilà, donc ceux qui doutent encore que ce n'est pas une guerre, c'est des crimes quotidiens qui sont commis par l'État d'Israël. Et un paradoxe, justement, c'est que dans tous les conflits, le fait d'avoir un gilet presse, a priori, ça protège. Mais là, non, si on a le gilet de presse, on devient encore plus une cible. Et donc, les journalistes sont obligés de l'enlever tellement ils sont traqués. Voilà. Ceci dit, Tu vas là-bas principalement pour rencontrer des gens qui ne sont pas forcément dans des situations terribles, pour raconter tant que c'est possible la vie des gens, comment on peut dire, normales.
Exactement, mais c'est ça, c'est exactement ça. Il y a Là, je t'emmène, le podcast, c'est raconter la normalité des gens, leurs rêves, leurs contradictions, tout en racontant aussi la réalité de leur quotidien, qui est aussi conditionné beaucoup par l'occupation israélienne.
Mais c'est très important d'avoir un témoignage comme ça, parce que Jean-Marie Lancette, dont on parlait tout à l'heure, le créateur de l'entreprise France Import Palestine, participait il y a quelques semaines à une table ronde au sujet de la Palestine, et des gens qui n'y sont pas allés étaient persuadés qu'en Cisjordanie, tous les oliviers avaient brûlé, les gens ne pouvaient plus manger, etc. Et quand il a dit, ben non, on est allé rencontrer justement des gens qui sont susceptibles de venir au festival Palestine en campagne à Bonini, des gens le traitent presque de menteur, tellement il y a des désinformations dans un sens bien sûr, mais aussi dans l'autre. Et donc oui, il y a encore des gens qui vivent, en tout cas des gens qui vivent tant bien que mal, mais qui rêvent, qui se projettent, qui sont capables, voilà, parce que c'est ça qui me fascine dans les gens de ce peuple en Palestine, c'est cette capacité, malgré tout, malgré les humiliations, malgré les morts dans leur famille, malgré l'impossibilité de faire ci, de faire ça, d'avoir toujours cette capacité de créer à l'instant présent et de s'imaginer un futur. C'est ça que...
Bah, dans le tout dernier épisode qui est de Yalla, je t'emmène, le 9e, qui est justement sur la question... Enfin, il répond à la question de savoir comment est-ce qu'on fait pour continuer à vivre là-bas. Et il y a une réponse d'un de mes amis palestiniens qui dit qu'on est obligé de continuer à créer des beaux moments parce que sinon on ne peut pas rester vivre là-bas. Et je pense que c'est ça que je voulais capturer comme prétexte, comme un joli prétexte pour raconter la situation sur place. Oui. Dire oui, il y a effectivement la guerre en Cisjordanie aussi. Elle est plus silencieuse que celle de Gaza, mais elle est aussi très violente. Oui. Mais ça n'empêche pas de créer des espaces où on se réjouit entre amis ou pas qu'entre amis, en famille, etc. Il y a toujours la nourriture, la culture, des événements. Je suis allée à un concert de clarinette quand j'étais à Ramallah. Il y a encore des événements, évidemment, il faut continuer. C'est ce que disent les Palestiniens, il faut continuer à vivre d'une manière ou d'une autre.
Il faut continuer. Et la chance que nous avons en Marseille, justement, c'est que ces événements, qu'ils soient musicaux, qu'ils soient des événements de danse ou des endroits où on peut goûter la cuisine palestinienne, ils sont nombreux. Là, je rappelle qu'il y a plusieurs restaurants où on peut goûter cette cuisine à Marseille. Il y a le chez Yasmine du Cours Julien du Vieux-Port. Il y a le grand restaurant à la Palestine, Panamajor. Il y en a un nouveau qui vient d'ouvrir, qui s'appelle le Rimal, avec Abed rue Vacon. Et puis on a eu deux dates où des troupes de Dapke ont pu passer ici même, hein, à la Friche Belle de Mai, le 16 juillet. Tu y étais, je crois, moi je ne pouvais pas. Et donc c'est quand même fantastique de pouvoir être là-bas, de les voir. Alors comment tu as trouvé les gens qui ici ont dansé le Dapke à la Friche Belle de Mai? C'était le 16 juillet.
Oui, c'était un bel événement. C'était l'opportunité d'avoir un peu de la culture palestinienne ici à Marseille, et ça c'est toujours très 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 précieux, surtout dans un contexte où il y a un pays occupant qui essaye d'effacer cette culture. C'est aussi, je pense que, enfin en tout cas ils le disaient eux-mêmes, que pour eux c'était aussi une manière de résister en faisant vivre la culture palestinienne.
Alors d'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots qu'est-ce que c'est le dapke? Parce que souvent on croit que c'est quelque chose à manger, parce que souvent les plats palestiniens... Voilà.
Alors, le dapke, d'ailleurs, je ne sais pas, c'est une danse traditionnelle palestinienne, pas que palestinienne d'ailleurs, ouais. Elle existe dans beaucoup de pays de la région du Levant. Ouais. Et c'est une très ancienne danse traditionnelle qui s'est perpétuée et qui continue à se perpétuer.
Alors, contrairement à toi, je n'ai pas eu la chance d'aller en Palestine, mais j'ai vu plusieurs troupes de dapke, justement dans ce fameux festival Palestine en campagne. Et moi, il me semble que dans la chorégraphie, je ne veux pas faire la comparaison, mais je pense à la capoeira, c'est dans la chorégraphie, il y a presque des gestes de combat, mais de combat pacifiste. Hein, mais est-ce qu'il y a de ça dans le dapke que tu ressens?
Ah oui, totalement. Ah, ils expliquaient ça. Voilà. C'est soit quelque chose qu'on... La dapke, c'est pour célébrer en famille ou avec des amis, etc. C'est certes. Une danse traditionnelle. Et puis, il y a aussi un côté qui peut, si on le veut, c'est de la danse. Donc, ça s'interprète, c'est un art. Et donc, ils expliquaient que c'était aussi guerrier par moment.
Voilà,
bien
dans
sûr.
Les chorégraphies, on sent des sortes de combat, tout à fait. Voilà, et tu nous disais qu'ici, même à la Friche, il y a eu beaucoup de Gazaouis. J'ai pas bien compris. Est-ce qu'ils ont pu être, exfiltrés ou sortis de Gaza parce qu'ils étaient artistes? Un groupe de. C'est ça, hein.
Oui, exactement. J'espère qu'on pourra les avoir au micro ici. Il y a un collectif qui s'est constitué et dont beaucoup de membres sont à Marseille qui s'appelle le collectif MAN. Et ils ont réussi à faire évacuer des artistes sur la base d'un programme dont ils parleront mieux que moi. Et c'est des artistes qui ont été évacués spécifiquement et leurs familles. Donc certains se sont retrouvés ici. Et par exemple, hier, à la Friche, il y avait un atelier de dabké justement par un de ces artistes danseurs palestiniens de Gaza.
Et on espère que peut-être c'est quelque chose qui va devenir pérenne et qu'à la Friche Belle de Mai, en plus de tout ce qui se passe déjà, on puisse connaître et pratiquer ce fameux dabké. Alors il devait y avoir une autre troupe de dabké qui aurait dû passer à Martigues grâce à tout ce que fait le collectif Martigues Ouest et Temps d'Auberge. Malheureusement, ils avaient pris des avions sur des billets sur des avions qui partaient de Jordanie et qui ont été annulés. Donc cette fois, ils ne vont pas pouvoir venir. En revanche, il y a un autre groupe d'enfants, jeunes et adolescents qui viennent d'Hébron et qui vont être accueillis à Martigues la début août. Ils doivent arriver donc le 3 août. Et il devrait y avoir le 6 ou le 7 août, ben c'est ce soir ou demain d'ailleurs, au cinéma La Cascade de Martigues, qui est un très bon cinéma, des documentaires avec ses enfants, des grands. En tout cas, c'est très précieux. Je rappelle que Marie, donc, tu co-réalises le podcast « Yallah, j'attends maintenant Palestine ». Et donc, ton séjour de 2 mois, d'abord, tu aimes ce pays.
Moi aussi, je suis tombée amoureuse de ce pays, ouais, comme Claire, voilà, que tu avais reçu.
Voilà. Malgré toutes les contraintes que tu subis à chaque fois que tu en repars, tu as envie d'y retourner.
Oui, absolument. Ouais,
d'accord.
Ouais.
Et ton travail, donc, c'est collecter de façon radiophonique des témoignages de gens vivants, de gens qui résistent et qui créent et qui te rendent joyeuse d'y aller.
Exactement, okay. Par-delà l'occupation. Okay. Elle est là aussi, mais par-delà l'occupation.
Bon, écoute, merci Marie, parce que du coup, quand on part là-bas 2 mois et qu'on revient ici, il faut le temps de digérer. En tout cas, c'est super que tu te sois installée à Marseille, et bien sûr, on fera ensemble d'autres émissions. Merci encore Marie, et à
merci
très bientôt.
Merci beaucoup Philippe.
Voilà, donc on va remercier encore une fois Sidi, on remercie Radio Galère d'accueillir cette émission Une heure en Palestine. Et on vous souhaite à tous et toutes un bel été. Et puis, donc, même si on ne peut pas y aller, on rappelle qu'il y a évidemment beaucoup de livres. On a à Marseille la librairie Transit, boulevard de la Libération, qui est un très très bon rayon de livres sur le Moyen-Orient en général et la Palestine en particulier. Et puis, on a le site internet de l'Assaut Palestine 13 qui relaie en permanence des informations nationales ou internationales qui sont sourcées et qui listent dans un agenda tous les événements qui ont lieu dans notre région pour soutenir encore et toujours et plus que jamais le peuple palestinien. On a aussi toutes les actions concernant les boycotts. Hein, quand on se demande qu'est-ce qu'on peut faire, ben on peut boycotter des produits d'entreprises qui investissent avec les colons qui illégalement envahissent les terres des Palestiniens. Ça, on peut le faire, c'est très simple. Il y a toute une campagne organisée qui est internationale, BDS, Boycott Désinvestissement Solidarité. Et voilà. Donc la Palestine vivra, et c'est très important pour tous les êtres humains de cette planète. Mmh.